Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Actuellement, nous nous concentrons sur la personne et l'enseignement de Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, nous allons parler du thème « Jésus et la prière ». La dernière fois, nous avons réfléchi sur la vie de prière menée par Jésus. Et nous avons constaté toute l'importance de venir régulièrement dans la présence de Dieu. De même, nous avons vu qu'en temps de crise ou de grandes décisions à prendre, il est bienfaisant de consacrer plus de temps à la prière. Car en nous appuyant sur Dieu, nous recevons toutes ces ressources spirituelles. Jean-Marc est de retour parmi nous. Et nous allons continuer à méditer sur la prière. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Cela vous est-il arrivé de vous demander comment prier? Alors vous n'êtes pas les seuls. Car écoutez ce que dit les Écritures. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Comment prier? Comment orienter nos prières? Voilà des questions qui nous intéressent aujourd'hui.
Et comment Jésus a-t-il répondu à cette question?
Écoutons la suite du récit trouvé dans Luc, chapitre 11. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés. » Car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation.
Jean-Marc, Jésus nous demande-t-il de répéter ces mêmes paroles toutes les fois que nous entrons dans la présence de Dieu?
Une chose est certaine, beaucoup de chrétiens répètent souvent cette prière. Ceci est bien. Mais je crains qu'à force de répéter ces mêmes paroles, elles deviennent trop familières. En prenant l'habitude de les prononcer, nous pourrions en arriver à ne plus penser à leur sens et ainsi à perdre de notre sincérité et spontanéité. Je ne pense pas que Jésus nous propose de suivre une formule rigide. Il définit plutôt les grandes orientations à adopter lorsque nous désirons prier, des orientations que nous pouvons développer selon nos propres circonstances.
Jésus nous propose donc plutôt des sujets de prière.
Oui. Et je dirais que ces sujets doivent donc représenter des priorités lors de nos moments de prière. Il est donc important de les inclure à nos prières. Ils sont un peu comme les ingrédients variés que l'on ajoute à une recette de cuisine.
Prenons donc ces ingrédients un par un. Quel est le premier?
Il aurait été bon de consacrer une émission à chaque phrase trouvée dans cette prière. Malheureusement, il nous faudrait être bref. Alors, cette prière de Jésus commence par le mot araméen « Abba » qui veut dire « Père ».
Nous avons déjà dit lors de cette série que tout disciple de Jésus-Christ est en vérité un enfant de Dieu. Ceci représente-t-il un rappel de cette vérité merveilleuse?
C'est exact, Yann. Quand nous nous approchons de Dieu pour prier, nous devons nous souvenir qu'il est notre Père céleste.
Lorsque je rentre à la maison de soir, je sais que mes enfants sont heureux de me voir. Et ils aiment également tout me raconter sur leur journée.
Oui, lorsqu'il existe une bonne relation entre un père et son enfant, l'enfant ne craint pas de tout confier à son père. Il reste très ouvert envers lui et lui raconte tout avec spontanéité. Il reste également confiant que son père l'écoutera, qu'il lui répondra par des paroles d'encouragement, de réconfort ou de sagesse selon les circonstances. Lorsque nous nous souvenons que Dieu est notre Père, cette vérité influence notre façon de prier. Car nous ne nous approchons pas de Dieu peureuse et servile, mais emplie de confiance et avec l'assurance de pouvoir tout lui confier.
Le deuxième élément mentionné par Jésus lors de la prière enseignée à ses disciples est celui-ci. Que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Que faut-il en apprendre?
Ici, Jésus nous enseigne qu'il nous faut mettre de côté nos propres préoccupations et regarder plus loin. Autrement dit, nos prières doivent refléter les priorités de notre Père Céleste.
Et quelles sont justement ces priorités?
L'Éternel désire se faire connaître, il désire régner dans nos cœurs et sur la terre entière. Reconnaître le nom de Dieu implique que nous lui apportions la louange et la reconnaissance car il est digne de les recevoir. Prier que son règne vienne signifie que nous le laissions d'abord régner dans nos propres vies. Et nos prières devraient aller dans ce sens, car nous devons prier pour les uns et pour les autres, afin qu'ils puissent connaître Dieu, l'adorer et accepter son règne dans leur propre vie. Nous pouvons prier, par exemple, pour les pasteurs, les évangélistes et les églises, afin qu'à travers leur ministère, le nom de Dieu soit reconnu et que son règne avance.
Merci Jean-Marc. Je sais que beaucoup d'enfants s'intéressent aux projets de leurs parents et désirent y participer. Et je constate que par cette prière de Jésus, nous participons au grand dessein de notre Père Céleste. Mais passons maintenant à la phrase suivante. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin.
Cette prière est malheureusement une réalité pour beaucoup trop de personnes qui se demandent ce qu'elles pourront manger demain. Ces paroles prouvent que notre Père Céleste s'intéresse à nous. Il a nos soucis à cœur et connaît les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous avons le droit et le privilège de pouvoir lui en parler, de pouvoir lui apporter tous nos besoins.
C'est un rappel merveilleux. Je me dis souvent, qui suis-je pour que l'Éternel s'occupe de moi? N'y a-t-il pas des millions de gens qui ont des besoins bien plus importants que les miens? Mais chaque fois que j'y pense, l'Éternel me rappelle qu'il est tout à fait capable de prendre soin de chacun de ses enfants, individuellement et personnellement. Mais passons au verset suivant. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous.
Même si nous cherchons à laisser Dieu régner dans nos cœurs, le péché a toujours une emprise dans nos vies. Le péché continue également à empoisonner nos relations personnelles. Lorsque nous prions, nous devons donc confesser nos péchés à Dieu et lui demander pardon. Nous devons aussi prier pour nos relations avec les autres, surtout si certaines sont difficiles. Nous devons prier pour être capables de pardonner ou pour chercher le pardon de l'autre. Nous devons prier pour qu'il y ait réconciliation là où l'offense a engendré des problèmes, tels que l'amertume, la colère, un esprit de vengeance et d'autres.
Oui, l'amour vécu dans la famille ou entre les chrétiens est si fragile. Le péché le met en danger à tout moment. C'est pourquoi nous avons besoin de prier pour que Dieu nous aide à aimer et à réparer les dégâts là où l'amour a fait défaut. Nous arrivons enfin au dernier élément de cette prière. Garde-nous de céder à la tentation.
Une fois de plus, il faut être réaliste. Nous vivons dans un monde où la tentation se présente sous des milliers de facettes.
Qu'est donc la tentation? Pouvez-vous la définir?
La tentation, c'est tout ce qui exerce une influence dans nos vies pour nous éloigner de Dieu. Elle nous incite à nous rebeller contre lui ou nous pousse à pratiquer le mal. En résumé, il existe selon la Bible trois sources principales de tentation. D'abord, nos propres désirs trompeurs. Ensuite, le monde qui nous entoure. Et enfin, Satan et ses mauvais esprits. Si nous voulons laisser Dieu régner dans nos vies, nous devons mener un combat contre toutes ces mauvaises influences. Nous devons résister aux tentations qui nous assaillent. Toutefois, pour y parvenir, nous avons besoin de puiser notre force en Dieu. Nous avons besoin de beaucoup prier. Jamais nous n'y parviendrons seuls sans le secours de l'Éternel.
Merci Jean-Marc pour ces paroles si enrichissantes sur cette prière enseignée par le Seigneur Jésus. Que ces réflexions puissent nous inspirer à mieux prier et ainsi à mieux vivre en tant que disciples de Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean. Voici le titre de notre série des méditations bibliques. Ce titre s'inspire d'un passage de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, que voici.
« Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. »
Notre invité Yuvin est de retour parmi nous pour nous conduire dans nos méditations. Bonjour Yuvin.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Pour commencer, nous allons relire le début de l'évangile de Jean. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui.
La dernière fois, nous avons appris que celui qui est la parole est nommé ainsi pour prouver que Dieu désire se faire connaître à nous. Oh Jésus-Christ, la parole faite homme, est celui qui nous révèle les qualités de Dieu. Aujourd'hui, nous venons de lire que la parole a participé à la création de toutes choses.
Oui, toute l'œuvre de la création doit nous renvoyer à Jésus-Christ, car tout a été créé par lui. Et la création est une preuve visible de la gloire du Dieu invisible. Comme l'exprime le psalmiste, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. » L'apôtre Paul aussi le déclare dans sa lettre à l'église de Rome. « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. » Lorsque nous sommes admiratifs devant la grandeur de la nature, nous devons nous souvenir que Dieu a tout créé par sa parole. La nature reflète la gloire de Dieu. Elle nous appelle à lui rendre gloire. Il est l'auteur de cette beauté. Lorsque nous contemplons les cieux avec leur multitude d'étoiles, nous ne pouvons que nous sentir tout petits et insignifiants. Les cieux sont si vastes que leur étendue dépasse notre entendement. Toutefois, notre Seigneur ne peut être que plus grand, plus puissant, lui-même ayant créé toutes choses. Ainsi, c'est la gloire du Créateur que les cieux reflètent.
Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il n'y a pas de Créateur, que tout ce que nous voyons est le fruit du hasard.
Oui, je sais. Toutefois, la Bible affirme que toute personne raisonnable ne pourra que conclure que l'univers a été façonné par une intelligence supérieure. La nature nous conduira à Dieu, si seulement nous ouvrons les yeux. Malheureusement, beaucoup préfèrent les fermer pour exclure Dieu de leur vie. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre une telle attitude, car tout dans la création, la nature me dit que Dieu est merveilleux, qu'il est glorieux. Alors, je vous encourage tous à ouvrir les yeux, à ouvrir votre cœur, afin de contempler la beauté de la nature et d'apercevoir à travers elle la gloire d'un Dieu extraordinaire.
Nous remercions Jean-Marc et Yuvin pour leur contribution enrichissante. Nous espérons aussi vous retrouver bientôt pour découvrir davantage l'enseignement de Jésus et apprendre à le connaître.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.